France Culture.
Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Tous les effets comiques sont dans Feydeau, disait Jacques Charon. Il a tous les genres, il les possède et les exploite tous. La surprise, la secousse de l'imprévu, l'erreur sur la personne, la répétition du geste et de la phrase, le renversement des circonstances, etc., etc. Nous allons découvrir la conférence que Jacques Charon, grand interprète de Georges Feydeau, avait donnée dans le cadre de l'Université des Annales, sur l'auteur donc de Tailleur pour Dame, Chat en Poche, Monsieur Chasse, le Dindon, la Dame de chez Maxime, etc. Georges Feydeau, auteur génial, était en revanche un critique imparfait, car il avait dit à l'un de ses fils, quelques heures avant sa mort, « De tout ce que j'ai écrit, il ne restera rien. » Sauf peut-être « Feu la mère de Madame » et encore, si elle est jouée à la Comédie française. Première diffusion de cette conférence sur France 3 Nationale, le 19 février 1962, avec, en supplément, un extrait de « Men te promènent donc pas toute nue », interprété par Jacques Charon et Micheline Boudet.
Le 8 décembre 1862, naissait à Paris le petit Georges Feydeau. Il sera historien comme papa, dit Georges Flaubert, ami de la maison. Ernest Feydeau, le père, qui a déjà écrit Fanny, un roman assez audacieux, riche en détails piquants et assez libre, qui a encouru les foudres de l'archevêque de Paris, est aussi l'auteur d'une histoire des usages funèbres et des sépultures, publiée l'année même de la naissance du petit Georges. Étrange hérédité pour celui qui sera à la fois l'auteur le plus gai et l'un des hommes les plus mélancoliques de son époque. Sa mère, Lodzia Slewska, est polonaise, d'une grande beauté qui va presque jusqu'à l'insolence, dit-on. Elle laisse volontiers courir le bruit qu'elle a à jamais ligoté de ses faveurs le duc de Morny. Mais lorsqu'ensuite on lui prête un empire tout-puissant sur Napoléon III et qu'on en vient à prétendre que Georges est né de ses amours coupables, elle oppose une dénégation péremptoire. Comment peut-on être assez bête pour croire qu'un homme aussi qu'un garçon aussi intelligent que Georges soit le fils de cet empereur idiot. Le petit Georges est en effet un enfant très intelligent. Il est aussi très paresseux. C'est à 7 ans que Georges écrit sa première pièce. Ce n'est pas encore un vaudeville, mais presque. Un conte de fées en forme de vaudeville où l'on voit un roi parti pour la chasse revenir à l'improviste et découvrir sa reine dans les bras du page. Feydeau a d'ailleurs expliqué lui-même comment lui vint la vocation d'auteur comique. Il est plus facile d'être vaudevilliste que d'expliquer pourquoi on l'est. Néanmoins, je vais essayer. Comment je suis devenu vaudevilliste? C'est bien simple, par paresse tout simplement. Comment cela vous étonne? Vous ignorez donc que la paresse est la mère miraculeuse, féconde du travail. Et je dis miraculeuse parce que le père est totalement inconnu. J'étais tout enfant, 6 ans, 7 ans, je ne sais plus. Un soir, on m'emmena au théâtre. Que jouait-on? Je l'ai oublié. Mais je revins enthousiasmé. J'étais touché. Le mal venait d'entrer en moi. Le lendemain, après n'en avoir pas dormi de la nuit, dès l'aube, je me mis au travail. Mon père me surprit, tirant la langue et, d'une main fiévreuse, décrépant mes cheveux emmêlés par l'insomnie, j'écrivis une pièce. Tout simplement. Que fais-tu là, me dit mon père. Une pièce de théâtre, répondis-je avec résolution. Quelques heures plus tard, comme l'institutrice chargée de m'inculquer les premiers éléments de toutes les sciences en usage, une bien bonne demoiselle, mais combien ennuyeuse, venait me chercher. Allons, monsieur Georges, il est temps. Mon père intervient. Laissez Georges, dit-il doucement. Il a travaillé ce matin, laissez-le. Il a fait une pièce. On ne connaît pas assez les ressources de la dramaturgie. Georges Feydeau débute plus sérieusement, à 21 ans, avec une comédie en un acte, Amour et piano. Comédie irrésistible, basée sur un quiproquo bien simple, dont les jeunes élèves du conservatoire se servent assez souvent pour essayer d'obtenir un premier prix. Ce fut d'ailleurs le cas de Jean-Paul Belmondo il y a 5 ans. C'est alors que le futur maître du rire faillit devenir acteur. Des Landes, directeur du vaudeville, avait remarqué sur une scène d'amateur ses dons de comédien et lui donna rendez-vous pour l'engager. Des Landes était en retard, Fédo regarda sa montre, laissa passer 2 minutes et s'en alla. « J'ai compris ce jour-là, disait-il, quels avantages on peut tirer de l'inexactitude. Aussi, j'ai juré d'être en retard toute ma vie. » C'est pendant son service militaire au 74e de ligne qu'il écrit sa première grande pièce, « Tailleur pour dames ». Georges Feydeau, qui a une chambre en ville, comme pas mal de conscrits à l'époque, oublie purement et simplement un matin de se rendre à la caserne. Il finissait son 3e acte et, dans le feu de l'inspiration et de l'imbroglio final, s'aperçut subitement, en écrivant la dernière réplique, qu'il était 2 heures de l'après-midi. L'appel était à 8 heures du matin. La pièce est représentée sur la scène du Théâtre de la Renaissance. La première a lieu le 17 décembre 1887. Georges Feydeau, encore en soldat de seconde classe, assiste à son premier véritable triomphe. Il écrit des monologues. Ils sont charmants, ces monologues. Un particulièrement en vers, les seuls vers peut-être qu'il ait jamais composés. Il s'intitule « Trop vieux ». Et je vais me permettre de vous le dire. J'avais résolu de t'écrire quelques vers. Oui, cela fait bien. Mais voilà, je ne sais que dire. Je cherche et je ne trouve rien. Un éloge. À toi, pourquoi faire? Pourquoi des compliments pompeux? Si c'est pour ça, mieux vaut me taire, car vraiment, ce serait trop vieux. Mais reproduisons d'abord « trop vieux ». Pas un mot. Elle était belle. Hier au soir, j'ai fait un faux pas. Chut, je suis un mari fidèle et Jenny ne le saura pas. Elle avait un air d'innocence, rien que l'air. Mais quel nez, quels yeux. Chut, et ma femme a confiance. Elle dit que je suis trop vieux. Trop vieux, moi. Oh, oh, ça fait rire. Trop vieux, moi. J'en ris bien. Pauvre femme, si l'on peut dire. Pas un mot. Ne dites rien. Elle avait un ton de rosière en murmurant « Soupons, tous deux. » Je dus céder à sa prière. Bon, qu'importait. Je suis trop vieux. Ah, je suis un gros Lovelace. C'était tout à fait piquant. Dans un fiacre, nous prîmes place et fouette cochée chez Brébant. Elle avait la taille admirable, des dents. C'était délicieux. Et je me disais, diable, diable, Christy, pourquoi suis-je trop vieux? Enfin, notre fiacre s'arrête. Nous montons dans le restaurant et j'ordonne que l'on apprête un cabinet à l'instant. Elle aimait les choses corsées. Je commande un linge somptueux avec des sauces épicées, hélas, puisque je suis trop vieux. Je m'assis tout près d'elle, à table, son corps était tout près du mien, je frôlais son bras adorable, et tout cela me... nom d'un chien. Aussi pour me monter la tête, ah, je buvais de mon mieux, j'avalais du poivre. Ah, c'est bête, aller d'être trop vieux. N'importe, dans ce linge de délices, chaque plat nous trouvait plus près. Et lorsqu'on fut aux écrevisses, nous avions fait de grands progrès. Elle appuyait sur moi sa tête et j'étais presque audacieux, me demandant l'âme inquiète à ça, suis-je vraiment trop vieux? Le champagne est un vin qui grise. J'étais bien un peu gris hier soir. Elle avait la taille bien prise, aussi je la lui pris pour voir. Christy, c'était mieux qu'à ma femme. Ma femme est obèse pour deux. Et j'avais le cœur plein de flammes. Bah, qui dit que je suis trop vieux? Moi, je me trouve encore très jeune. Je ne vois pas du tout pourquoi je me condamnerais aux jeunes lorsque je... Tiens, c'est vrai, ma foi. Moi, je suis homme de ménage, mais enfin, j'étais curieux, sans être pour cela volage, de voir en quoi j'étais trop vieux. Trop vieux. Moi. Quelle calomnie. Au moins, faut-il m'en assurer. Et je... Nous... Elle est très jolie. Ah, très bien. Je puis en jurer, je suis rentré tard en voiture. Jenny l'ignore, c'est au mieux. Mais parbleu, la chose est sûre, eh bien non, je n'étais pas trop vieux. La Troisième République populacière, intellectuelle et cosmopolite, règne des gens d'affaires, triomphe de la banque israélite, du tribun Shekhar et de l'anarchiste de toute classe, est dominée par l'avènement à la direction du pays des grands industriels devant quoi croule la bourgeoisie moyenne. Dans cette ère de brutalité naturaliste, il importe de moins en moins que la comédie s'achève sur un dénouement heureux. Il importe de plus en plus que le rideau tombe sur un coup de théâtre fut-il atroce dans sa drôlerie. On exige dans les turlupinades de la fantaisie, de la sensation et de la réalité. Les personnages de Feydeau ne sont donc rien moins que des bourgeois posés ou des personnes du monde. Ce sont des fêtards, des ribaudes de grands bars, des demi-fous, des abouliques, des infirmes, des alcooliques, des brutes maniaques, des mystagogues. Leur langage n'est pas le bon français des héros de la biche, ou les demi-teintes diaprées de touches étincelantes qui illuminent le dialogue de Meillac. Il est haché, chaotique, argotique, elliptique, bourré de rencontres d'idées saugrenues et ahurissantes, comme un habit d'escamoteur qui fait sortir de ses manches, de ses poches ou de son col des poissons, des fleurs, une omelette, des bulles de savon ou un boulet de canon. Les situations ne sont pas l'aboutissement des péripéties de l'amour, de l'orgueil ou de la cupidité. Ce ne sont même pas des péripéties, mais des catastrophes foudroyantes, des rencontres cataclysmiques, avec vol de vêtements, coups de revolver, menaces sous condition, rixes, appartements truqués, apparitions, magnétisme, spiritisme, extase anesthésiante. Tout cela est mis en œuvre dans les pièces de Feydeau, comme des amoureuses despotiques, des furies baroques, des mystiques hébétées. Les hommes sont généralement d'indescriptibles crétins, de cyniques farceurs ou des brutes obtuses. Les unes et les autres ne sont pas de simples inventions, mais des types réels que l'auteur a fait passer devant des miroirs concaves, convexes, gondolés ou simplement grossissants, et qui présentent toutes les déformations optiques possibles. Tous les effets comiques sont dans Feydeau. Il a tous les moyens, il les possède, et il les emploie tous. La surprise, d'abord. La secousse de l'imprévu, l'erreur sur la personne, autre surprise, l'énigme, le plus grand élément d'intérêt, l'automatisation d'un personnage, l'indécision de l'individu qui crée l'automatisme, la répétition du geste et de la phrase, forme de l'idiotie, le parallélisme des situations qui amène un enchevêtrement de coïncidences et d'épisodes, le renversement des circonstances, enfin la poursuite, fuite éperdue et chasse enragée, le thème initial des premières aventures que les hommes se racontèrent entre eux, la galopade après la bête ou l'ennemi traqué et la suggestion motrice qui résulte du spectacle de cette course caracolante. Les auteurs autour de lui composent leur comédie avec deux ou trois rôles au plus et quelques comparses. Feydeau, dans ses distributions, a des listes interminables de personnages qui tous agissent, avec une physionomie, des phrases caractéristiques et une directe intervention sur le déroulement de l'intrigue. La légèreté de ses scénarii, si surchargée de machinations, de rencontres, de méprises, de projets conçus, déroulés et repris, d'effondrements et de triomphes, de lâchages et de raccommodements, vient de la réalité de ses nombreux types, bien mis en relief, chaînons des conjectures les plus folles dont ils assurent la vraisemblance inopinée, si bien qu'il y a plus d'observation de sens du réel dans une extravagance comme un fil à la patte que dans un pesant mélo pseudo-philosophique comme la course au flambeau. Des bouffonneries, comme « Mais ne prenez donc pas toute nue ou on purge bébé » sont si justes, si observées, que ces pochades dont le titre est une gouaillerie effleurent la tragédie domestique. Quant au bourgeon, c'est une excellente comédie. Variété de thèmes scéniques, éblouissante clarté dans les imbroglios incroyablement touffus, précision des traits de caractère, rapidité et logique des évolutions dramatiques, Telles sont les marques distinctives, éclatantes, de la supériorité de Phédo. Il n'a pas innové, peut-être, encore que le jaillissement de sa verve, le ruissellement de ses incidences ébahissantes, la surabondance de ses coups de théâtre puissent être estimés d'un art véritablement neuf. Personne n'y avait atteint avant lui. Son preste dialogue court avec l'action, colle sur ses gambades et ses sauts périlleux. C'est le maillot léger du clown, solide, souple, qui fait peau sur les muscles. On ne peut demander davantage. Marcel Achard parle de lui comme d'un mathématicien, d'un astronome, d'un joueur d'échecs et d'un inventeur. Il le compare à Galilée, Pythagore, Vaucanson, Philidor et Denis Papin. C'est le Galilée d'un monde qui tourne à l'envers, le Pythagore d'un implacable théorème, le Vaucanson de cent automates aux mécanismes délicats, le Philidor d'une partie où le spectateur est laissé échapper mat, le Denis Papin qui découvre la vapeur à la suite d'une explosion de rire. Pour animer ces machines fabuleuses, minutieuses et diaboliques, il fallait à Phédo beaucoup de temps et des comédiens d'une précision absolue. C'est pourquoi ces pièces étaient répétées 3 mois environ. Pour bien jouer ces comédies, il fallait s'abandonner entièrement entre ses mains. Son grand souci était la sincérité. Quand un acteur n'est pas sincère, disait-il, le public ne lâche pas l'acteur, il lâche la pièce. Il se méfiait des artistes et de leurs initiatives. Il les considérait un peu comme des phonographes intelligents et indociles. Il leur mâchait la besogne, mais il avait le mot féroce quand on ne le comprenait pas assez vite. À la reprise d'une de ses pièces qu'il avait dû laisser jouer sans ses interprètes favoris, il se promenait de long en large, le cigare rageur, le chapeau en bataille. Un des acteurs, pressentant qu'il y avait de l'orage dans l'air, lui demanda aigrement « Eh bien, maître, ça ne va pas ?»« Si, si, ça va. » »« Le seul malheur, voyez-vous, c'est que chacun de vous donne la réplique à un imbécile. » Mais quelque chose l'irritait plus encore que l'incompréhension, c'était le cabotinage. On peut lire dans La Dame de chez Maxime l'intéressant avertissement que voici. Il est adressé aux interprètes de la môme crevette et vise leur façon d'interpréter la marmite à Saint-Lazare. Note de l'auteur. Ayant remarqué que beaucoup d'interprètes ont une tendance à chanter la romance ci-dessus, bien plus face au public que face aux invités, je leur ferai remarquer que, ce faisant, elles commettent un véritable non-sens au détriment de la situation. La môme, en ce moment, est censée chanter pour les invités du général. Donc, elle doit leur faire face et ne pas descendre à l'avant-scène. Je compte sur les artistes qui interpréteront ce rôle pour prendre en considération cette remarque. Et il ajoute, avec un mépris écrasant, lorsque j'aurai affaire à une cabotine, bien entendu, je l'autorise à agir au mieux de ses intérêts. Sur les acteurs comiques, il était tout à fait d'accord avec son ami Tristan Bernard qui disait « Un acteur comique, c'est un homme qui a reçu du ciel le don de reproduire familièrement des gestes vrais, de vraies intonations. Il a su acquérir les qualités de discrétion qui font qu'en l'écoutant, les honnêtes gens riront de bon cœur, sans honte et sans remords. Plus un emploi d'acteur l'amène à des effets poussés, des effets violents, décisifs, plus il exige chez celui qui l'exerce ce tact spécial qui permet de ne pas dépasser la mesure. Quelqu'un disait de Courtedigne qu'il pesait les gros mots sur balance spéciale, dont les qualités contradictoires en apparence étaient la solidité massive et la précision. Ce n'est pas commode, en effet, de peser un quintal à un décigramme près. Le véritable comique sait bien, sent bien qu'il ne faut pas confondre ce qui est simple, vrai, bonhomme, avec ce qui est grossier. Un mot, un geste malséant n'est jamais absous par le rire. Le comique est un don qu'un certain nombre d'hommes apportent en naissant, mais que la plupart gâtent plus ou moins parce qu'il manque d'équilibre ou de discernement. Beaucoup d'acteurs dramatiques s'essayent parfois dans le comique, mais généralement ils se croient obligés de charger. Or, un vrai comique ne charge jamais. Quelques anecdotes, dont Georges Phédo est le principal protagoniste, suffiront pour accentuer ou compléter ce portrait. Franc sans indulgence, il l'était en effet. Même avec des personnalités dont il pouvait dépendre, comme le démontrent les anecdotes suivantes. Un directeur de théâtre, qui passait à juste titre pour être fort peu soigné, venait, après nombre de fours successifs, de remporter un succès éclatant. Il faisait des recettes journalières égales à celles qu'il faisait jadis en un mois. Fédo le rencontre et le félicite. « Eh bien, vieux, tu es content. Tu vas mettre du beurre dans tes épinards et tu vas pouvoir soigner un peu ta personne. Moi, mais mon cher, sans en avoir l'air, je prends mon bain tous les matins. » Et l'autre de répliquer, « Ah oui, oui, mais alors change l'eau. » Sur un confrère, auteur de fours mémorables, et qui pourtant débinait toutes les pièces des autres, et qui en outre avait des infortunes conjugales célèbres, Fédo disait, « Il n'est bon qu'à être cocu, ce type-là. Et encore, il faut que sa femme l'aide. » Georges Fédo était souvent invité dans ce qu'il est convenu d'appeler le grand monde, mais qu'il ne prisait guère. La baronne X, un des grands noms de la haute finance, passait, et l'on affirmait que ce n'était pas à tort, pour tromper outrageusement son richissime époux, lequel, au surplus, ne s'en souciait guère, encore que dûment renseigné. Ils ont cependant un bambin de 5 ans, effroyablement gâté, surtout par sa mère. Un soir, au milieu d'une fastueuse réception, le gamin, malgré la défense qui lui en avait été faite, se présenta dans le salon et, pour couper court aux remontrances, s'alla blottir câlinement sur les genoux de la maman. Le père furieux grommela, « Oh, quel enfant terrible, toujours dans les jupes de la baronne !» fit Georges Fédo, qui a entendu. Il s'y fera de belles relations. Et maintenant, avant de vous jouer une scène de « Men te prennent pas toute nue » avec Micheline Boudet, sociétaire de la Comédie française, ce qui terminera cet entretien sur Fédo, je tiens ici à remercier très profondément ses fils et aussi son petit-fils Alain pour toutes les confidences qu'ils ont bien voulu me faire et dont voici la dernière qui touche tout particulièrement les comédiens français. Quelques heures avant sa mort, Georges Fédo confia à l'un de ses fils « De tout ce que j'ai écrit, il ne restera rien. Sauf peut-être feu la mère de madame, et encore, si elle est jouée à la Comédie française. Non seulement feu la mère de madame est au répertoire de la Société des comédiens français, mais aussi le dindon est bientôt un fil à la patte. Trop sévère, trop méfiant envers lui-même, sur son talent, Georges Fédo, Dieu merci, s'était trompé.
Mais stop ! Mais veux-tu me dire ce qui t'a pris ? Après qui tu en as ?
Apparemment, après qui le demande ? Ah non, tu vas pas te promener dans l'appartement en chemise de nuit avec ton chapeau sur la tête.
Oui, et ben je te prie d'abord de m'expliquer, j'enlèverai mon chapeau tout à l'heure.
Ton chapeau, je me fiche pas mal de ton chapeau, c'est pas après lui que j'en ai.
Bon, enfin, qu'est-ce que j'ai encore fait ?
Rien, tu n'as jamais rien fait.
Je ne vois pas.
Ah, c'est encore plus grave. Si tu n'as plus conscience de la portée de tes actes...
Oh, enfin, quand tu voudras m'expliquer !
Alors tu trouves que c'est naturel pour une mère d'aller changer de chemise devant son fils ?
Oh, c'est pour ça que tu me fais cette sortie ?
Bah, évidemment, c'est pour ça.
Oh, ben vrai ? J'ai cru que j'avais commis un crime, moi.
Ah, tu trouves ça naturel ?
Oh, papa de Auguste est un enfant ! Si tu crois seulement qu'il regarde le pauvre petit... Mais une mère, ça ne compte pas !
Y a pas à savoir si ça compte, ça ne se fait pas !
Oh, un gamin de 12 ans !
Non, pardon, 13.
Non, 12 !
Ouais, je faisais l'église depuis 3 jours.
Ah bah oui, 3 jours, ça ne compte pas.
Oui, alors, évidemment, alors ça, rien ne compte avec toi.
Pauvre Auguste, si tu crois qu'il sait seulement ce que c'est qu'une femme...
En tout cas, c'est pas toi de lui apprendre. Bon, enfin, qu'est-ce que c'est que cette manie ? Tu as de te promener toujours toute nue.
Où ça, toute nue ? J'avais ma chemise de jour.
T'es encore plus indécent. On te voit au travers comme dans du papier calque.
Ah ouais. Ah, c'est là que tu vas en venir, hein ? Dis-le, tu voudrais que j'ai des chemises en calico ?
Pourquoi des chemises en calico ? Qu'est-ce qui te parle d'avoir des chemises en calico ?
Je suis désolée, mon cher. Toutes les femmes de ma condition ont des chemises en linon. Je vois pas pourquoi j'aurais les miennes en madapolam.
Alors bon, les voilà en madapolam à présent.
Ah ben merci. Qu'est-ce que diraient les gens ?
Quels gens ? Tu vas montrer tes chemises aux gens ?
Moi, je vais montrer mes chemises aux gens ? Tu dis que je vais montrer mes chemises aux gens ? Voilà où tu en arrives !
Mais non, ne me fais pas dire ce que je ne dis pas ! D'abord, quel besoin as-tu de te mettre en chemise de nuit à 4 heures de l'après-midi ?
Ah tiens, on voit bien que c'est pas toi qui es allé crever de chaleur au mariage de la petite du chaud au miel ? Et tiens, ça encore, pour qui j'étais? Pour toi, pas pour moi, bien sûr, pour t'épargner une corvée, comme d'habitude. Car enfin, quoi, je ne suis pas collègue du père à la chambre, moi. Je suis pas députée, moi, c'est toi. Ah, t'as une façon de me remercier.
Il ne s'agit pas de te remercier.
Bon, naturellement, ça. Remerciement de ta part, je suis encore à l'attendre. N'empêche que quand je suis rentrée en transpiration, j'ai éprouvé le besoin de me mettre à mon aise. Je crois que c'est permis.
Oui, ça, jamais.
Ah, bah, c'est encore heureux. Tiens, pardi, t'es au frais, toi, ici. T'as pas l'air de te douter que dehors, nous avons au moins 35 ou 36 degrés de latitude.
Latitude.
36 degrés, parfaitement.
Mais qu'est-ce que c'est que ça, latitude?
Oh, tu sais pas ce que c'est que latitude? Ah bah, c'est triste à ton âge. Latitude, c'est le thermomètre.
Oh, je te demande pardon, moi j'ignorais.
Bah, c'est vraiment pas la peine d'avoir été au collège. Quand on pense que par 36 degrés de latitude, tu nous imposes d'être encore à Paris. Tout ça parce que tu ne peux pas quitter la chambre avant la fin de la session, je te demande un peu. Comme si la chambre ne pouvait pas se passer de toi.
Oui, nous sortons de la question. Je te demande pourquoi tu te promènes en chemise et tu me fais le procès du parlementarisme. Ça n'a aucun rapport.
Ah, mais je te demande bien pardon. Ça en a un. Parce qu'à cause de ton parlement, nous sommes encore à Paris par 36 degrés de latitude.
Oui, tiens.
Parfaitement. Parce que par 36 degrés de latitude, je suis en transpiration. Parce qu'étant en transpiration, j'éprouve le besoin de changer de chemise. Et parce que j'ai changé de chemise, tu éprouves toi le besoin de m'attraper.
Mais je t'ai pas attrapé parce que tu changeais de chemise. Je t'ai attrapé parce que tu te promenais en chemise transparente devant ton fils.
Est-ce que c'est
de
ma faute si on rentre à faire?
Non, mais c'est ta faute si tu entres avec dans la chambre.
Ah, bah ça c'est un comble, alors j'ai plus le droit d'entrer dans ma chambre.
Oh, mais ne me fais pas dire ce que je ne dis pas.
Mais où veux-tu que j'aille me déshabiller? À la cuisine, à l'office, devant les domestiques? Ah, c'est pour le coup que tu crierais comme un putois.
Cette mauvaise foi dans la discussion.
Mais il n'y a pas de mauvaise foi. Je suis chez moi dans ma chambre. C'est vous qui n'avez pas besoin d'y être. Moi, je vous ai pas demandé d'y venir, n'est-ce pas? Et bah, si maintenant vous gênez, vous n'avez qu'à vous en aller.
Et voilà, c'est sa logique.
Non, alors ça c'est fort. M'accuser de me promener en chemise de jour. Mais comment voulais-tu que je fasse puisque ma chemise de nuit était dans ma chambre?
Bah, j'étais là. Tu n'avais qu'à me la demander, je te l'aurais apporté.
Alors, c'était la même chose, tu m'aurais dit toute nue.
Oui, mais moi, je suis ton mari.
Eh ben, lui, c'est mon fils.
T'as découragé. Alors, tu trouves que c'est pareil?
Mais, c'est plus près.
Bon.
En somme, quoi, toi? T'es un étranger pour moi, c'est mon mari, mais c'est une convention. Quand je t'ai épousée, je sais pas pourquoi d'ailleurs.
Merci.
Je ne te connaissais pas et brusquement, craque, du jour au lendemain, parce qu'on avait dit oui devant un gros monsieur avec une ceinture tricolore, c'était admis, tu me voyais toute nue. Eh ben ça, c'est indécent.
Ah, tu trouves?
Eh ben oui. Tandis que mon fils, quoi, c'est mon sang, c'est ma chair. Eh ben, que la chair de ma chair voit ma chair, y a rien à convenir. À part les préjugés.
Ah oui, mais c'est tout, les préjugés, c'est tout.
Pour les exprimer, c'est qu'un oui, mais Dieu merci, je suis au-dessus de ça.
Ça arrange tout comme ça.
Oh, mais enfin, écoute. Est-ce que je fus la plus tendre enfance du petit? Il n'a pas 25 000 fois assisté à ma toilette et tu n'as jamais rien dit.
Je ne dis pas le contraire, mais il faut tout de même qu'il y ait un jour où ces choses la cessent.
Oui, oh, je te dis pas.
Eh ben.
Bon camp.
Quoi, quand?
Quel jour, à quelle heure?
Quoi, quel jour, quelle heure?
Cesse-t-on? Il doit y avoir un jour, une heure spéciale, pourquoi particulièrement aujourd'hui, pourquoi pas hier, pourquoi pas demain? Alors je te demande quel jour, quelle heure?
Vous êtes ces questions, comment veux-tu que je précise, moi?
Tu ne peux pas préciser! Bon. Ah, ça, c'est merveilleux! Alors tu voudrais que moi, une femme, qui par définition doit être moins intelligente que toi, du moins c'est toi qui le dis, tu voudrais que je sois à même de le faire alors que tu t'en déclares incapable?
C'est bête ce que tu dis là!
Mais pas du tout, tu m'attaques, moi je me défends!
Enfin, qu'est-ce que tu veux me prouver? Qu'une mère a raison de changer de chemise devant son fils?
C'est pas là-dessus que j'en suis. Ça t'est désagréable, et ben bon, tu n'as qu'à me le dire gentiment. Moi, je fais attention.
Oh, tu fais attention, tu sais très bien que non, c'est plus fort que toi. Oh. Non, mais je t'en supplie, n'entrave pas ma carrière par des imprudences dont l'effet peut être irréparable.
Oh, irréparable.
Songe que tu es la femme d'un ministre de demain. Eh bien, quand tu seras ministresse, est-ce que tu te baladeras dans les couloirs du ministère en chemise?
Oh, ben non, bien entendu.
Quand je dis ministre, hein, tout le monde peut aspirer un jour à être président de la République. Pas que je le sois.
Oh.
Ben, mettons. On reçoit des rois, on reçoit des reines. Est-ce que tu les recevras en chemise?
Non.
Est-ce que tu te montreras à eux comme ça?
Oh, mais non, voyons. Je mettrai ma robe de chambre.
Voilà, elle mettra sa robe de chambre. Non.
Enfin, écoute, mais je mettrai ce que tu voudras.
Non. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que ta correction.
Moi? Cite-moi un cas où j'ai été incorrecte.
Comment ça, quand tu t'as hier, tiens, quand Deschanel est venu me voir. Eh bien, il n'y avait pas 5 minutes que je te l'avais présenté, que tu ne trouves rien de mieux à lui dire que « Oh, que c'est curieux, l'étoffe de votre pantalon, qu'est-ce que c'est que ce tissu-là » Et tu Tu te mets à lui clotter les cuisses.
Oh, les cuisses? Je m'occupais que de l'étoffe.
Oui, mais enfin, les cuisses étaient dessous. Tu trouves que c'est une tenue?
Mais ben, comment voulais-tu que je fasse? Je pouvais pourtant pas lui demander d'ôter son pantalon, je me suis que je voyais pour la première fois.
Oh, non, t'as un mode de discussion qui vous désarme.
Mais malgré tout, qu'est-ce que tu veux? Tu me dis des choses blessantes. Oh. Alors, c'est plus fort que moi, je me bute.
Moi, je te dis des choses blessantes.
Oui. Je me promène toute nue et que j'ai ploté les cuisses à Monsieur Deschênes.
Quand tu dis des choses que je désapprouve, j'ai bien le droit de te faire une observation.
Je dis pas, mais tu peux me le dire gentiment. Tu sais bien que quand tu me parles avec douceur, tu fais pas tout ce que tu veux.
Bon, alors je te demande gentiment d'aller t'habiller parce que j'attends quelqu'un.
Ah oui, qui ça?
Hein? Celui qui a mené une campagne acharnée contre moi lors des dernières élections.
Non.
Oui.
C'est tout de même pas Monsieur Hochepet?
Ah si, le maire de Moussillon-les-Indrets lui-même.
Oh, ben en un culot celui-là! Cet homme qui a dit de toi ping-pong!
Bon. Pique-pendre! Pas ping-pong!
On dit pas ping-pong?
On dit pas ping-pong.
Toujours entendu dire ping-pong!
Toujours mal entendu!
Ah ben c'est donc ça que je comprenais par l'expression.
C'est donc ça, évidemment.
Ah, oui, enfin, ça m'est égal. Pigue-pendre ou ping-pong, tu vas me faire le plaisir de le renvoyer chez lui, ce monsieur, avec tous les honneurs qui lui sont dus.
Ah, mais ça n'est pas du tout, je te prie même d'affecter la plus grande amabilité, hein.
Ah,
ah oui.
Ah bon.
Où vas-tu?
Bah, je vais sonner Victor, parce qu'il enlève son plateau, il a toujours la manie de laisser le plateau avec les tasses à café. Ça fait négliger, ça fait ça, puis ça attire les mouches. Et les, tiens, regardez-moi ça, allez les mouches, allez les gars, allez mes dames. Moi, j'aime pas le désordre, hein, j'aime la tenue. J'aime la tenue.
Monsieur Schmel!
C'était Les Grandes Conférences, le théâtre de Georges Feydeau par Jacques Charon avec la participation de Micheline Boudet. Première diffusion sur France 3 Nationale le 19 février 1962. Vous pourrez réécouter cette conférence en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.
When I don't want to forget where I come from. Think of your moves, your class, and I'm back home. I've got your rhythm in my blood, your crazy taps in my soul, my memory's out of control. I can't get you out of my mind. Come back to dance with me. Come back to dance with me. Your feet on a dance floor have nothing to prove. You had your own bebop style and your groove. Because I grew up on your knees, when start the music it's a glee, nobody ever stops me. I can get you out of my mind. Come back to dance with me. Come back to dance with me. I can get you out of my mind. I can get you out of my mind. Come back to dance with me.